Mémo audio, une mémoire sonore.
Pendant l'exposition d'Anselme Kiefer au Centre Pompidou, une toile de 15 mètres sur 20 s'est tout à coup décrochée du mur. Les visiteurs qui étaient devant moi ont été littéralement écrabouillés par la toile qui s'est effondrée sur mes jambes. J'ai perdu connaissance au milieu du tableau. La police est arrivée avant les secours du fait que l'alerte avait été donnée qu'un attentat était en cours à Pompidou. Nous espérons, bien sûr, que la toile n'a pas été trop endommagée par ce malheureux accident. Cette chute du tableau de Kiefer a complètement foutu en l'air tout mon programme. Ma venue à Pompidou s'inscrit dans mes tentatives de dissimulation. Je peux me glisser au milieu des foules pour mieux disparaître. Un jour, il y aura tant de monde que je ne retrouverai pas moi-même. À cause de cet accident, j'ai été privée de mes jambes pendant quelques mois. Difficile de se dissimuler avec deux jambes dans le plâtre. Grâce à cela, j'ai accédé à une notion plus complexe. Comment prendre de la distance par rapport aux choses? Mes psychanalystes me disent souvent « Madame, tout est question de la distance intérieure que vous mettez avec les personnes, les situations. » J'ai pris le métro. Je suis passée à côté d'une femme qui était par terre avec un bébé et j'ai mis en route la mise à distance. Et ça a marché. Au théâtre, quand les gens me voyaient entrer dans les toilettes handicapées sur ma chaise roulante avec mes deux jambes dans le plâtre, je mettais en route la mise à distance automatiquement. Je voulais me remettre à marcher comme les enfants font leurs premiers pas. Ils chutent, ils se relèvent, et puis peu à peu, les chutes disparaissent. Le centre de rééducation n'a pas du tout adhéré à cette conception de la marche. Moi-même, au bout de la seconde chute, j'ai immédiatement laissé tomber cette idée. J'ai rêvé que le jour de ma sortie, après des semaines et des semaines dans ce centre, j'accusais une chute magistrale dans les escaliers de l'entrée. Le personnel médical accourait pour me rapatrier immédiatement à l'intérieur. Lorsqu'on entre dans un cauchemar, on n'en sort jamais, car on finit par être le créateur de tous les cauchemars engendrés par le premier. C'est comme ça que cet été, sur le ferry, au retour de Corse, avec mon ami, nous avons imaginé qu'un attentat pouvait avoir lieu en pleine mer. Les gens, fait comme des rats, avec des djihadistes mitraillant tout sur leur passage, le bar dévasté. Et nous, en train de sauter dans la mer avec notre fils et de gonfler nos deux bouées en plastique en guise de radeau. Je me suis pas mal demandé si c'était plus judicieux de sauter à l'eau ou de rester sur le bateau. On aurait tout aussi bien pu se faire tirer dessus comme des lapins avec nos bouées multicolores. Essaie de te retirer du monde une seule fois. Imagine quelque chose pour toi-même. Quelque chose qui te fasse du bien. Une retraite de méditation à la campagne. Au bout de plusieurs jours, c'est vrai que j'ai commencé à toucher quelque chose de nouveau en moi-même. Incroyable! Chaque matin, nous marchions pour aller au cœur de la forêt. On était là, jambes croisées, les paumes des mains tournées vers le soleil et les petits doigts tournés vers la terre. Ça, c'est très important, les petits doigts, parce que ça aide à laisser les mauvaises énergies retourner dans le sol. Et un matin, des coups de feu en pleine méditation. Des hurlements, des chiens partout. Le groupe de méditation qui avait l'air si soudé, foutu en l'air en quelques minutes. Certains se mettaient à pousser des cris, d'autres à grimper aux arbres. Un chasseur venait de tuer un autre chasseur. Il l'avait pris pour un sanglier.
Les gens dont nous parlons dans nos spectacles ne viendront jamais au théâtre. On ne les rencontre que très rarement.
Au fin fond de la forêt, les pires horreurs ont lieu. Des hommes qui sont frères ou amis peuvent se tirer dessus comme des lapins par erreur. Aucun espace n'est épargné. Même si je plongeais à des kilomètres sous les mers, je me retrouverais sûrement nez à nez avec un sous-marin ennemi. Que sais-je ? L'humain menace partout. Et sa déchirure te rappelle toujours à l'ordre. Quand t'es dans un cadre constructif, rassurant, bien entouré, dis-toi qu'il y a toujours anguille sous roche. Époque de la dissimulation. Dissimule-toi où tu peux, sous le tableau de Kiefer qui chute, derrière chaque spectacle que tu crées. On ne sait plus qui est riche, car les riches se déguisent en pauvres et les pauvres en riches. Les codes sociaux se sont complexifiés. On se mettra à la page. Essaye de noyer le poisson, toi aussi. Fais un effort. Achète une grosse baraque alors que t'as pas un rond. Une baraque avec un grand terrain qui correspondrait à ton périmètre vital pour protéger ton intimité. Barricade-toi dans tous les sens jusqu'à prendre des secrétaires qui filtrent tes appels téléphoniques. Après tout, certaines personnes ne méritent même pas qu'on leur parle. Les gens qui ont des difficultés représentent une perte de temps monumentale. Prennent un temps fou à expliquer le pourquoi du comment de leur situation. Ils nous testent pour voir si on est capable de garder notre cap. Ils sont là pour mesurer à quel point on est solide intérieurement. Les médias aussi sont mèches avec eux. Ils nous poussent à bout. Jusqu'à ce que certains craquent, qui se mettent à dévier, à aider les gens comme ça, sans raison.
Quand tu te déguises en riche, prépare bien ton coup. Ne fais pas comme moi.
Essaie d'agrandir tes fragilités. Si tu n'es pas sûr de toi-même, travaille à t'auto-déstabiliser le plus possible. Le jour de la première du spectacle, essaye d'avoir un trou. À l'université, pendant ta soutenance de thèse, éclate en sanglots en plein milieu. Pendant le rendez-vous avec tes producteurs, sans chéquier. Et fais-leur un chèque énorme, plus gros que tout ce qu'ils auraient pu donner à qui que ce soit en fin de carrière. Creuse-toi le plus possible pour trouver ce qui te fragiliserait et qu'on puisse enfin te voir en entier. À la caisse du supermarché, la vieille dame ne comprend pas que son papier correspond aux courses qui vont être livrées chez elle. La caissière lui dit « Retournez vite chez vous parce que si vous n'y êtes pas, ils ne vont pas vous livrer. » La vieille dame cherche la porte de sortie du supermarché mais elle ne le trouve pas. Je ne vois pas son visage mais sa nuque, elle transpire énormément car elle est en train d'accomplir un véritable exploit. tient bon. J'attends de vieillir pour que les souvenirs de la petite enfance remontent enfin à la surface. Mettre des grillons dans les boîtes d'allumettes. Un jour, il est monté sur le toit du train en marche. C'est comme ça qu'il a été électrocuté. Mais il n'est pas mort, bien au contraire. Plus les problèmes se sont multipliés, plus nous avons fait des enfants, car ce sont eux qui trouveront des solutions. C'est pourquoi je conseille à chacun de faire le maximum d'enfants. Plus nous aurons des enfants, plus nous aurons une chance qu'il s'en trouve au moins un ou deux qui aient des solutions. Faire des enfants est plusieurs problèmes. On peut les confier à des gens qui les confient eux-mêmes à d'autres gens.
Qui parfois les confient à d'autres gens sans qu'on ait forcément à le savoir.
Au moment où t'es le plus désespéré, fais un enfant. Les enfants sont les êtres les plus épuisés du monde. Ils portent sur eux toute l'inquiétude des adultes. Nos enfants sont nos intermédiaires entre la catastrophe et nous-mêmes. Voilà pourquoi énormément de gens sont capables de tout pour avoir un enfant. Et lorsque t'as pas d'enfant, coupe-toi en deux et lance la moitié de toi à corps perdu dans la société virtuelle. Éloigne-toi de chaque chose de la vie. Ton téléphone, ton ordinateur peuvent vraiment t'aider à ça. Tout ce que je regarde dans un écran est toujours loin de moi, même si c'est tout à côté de moi. C'est incroyable comme les choses peuvent s'éloigner vite. Je suis passée à côté de ceux qui dormaient par terre dans les sacs de couchage et je me suis sentie très loin. Je me suis regardée plusieurs fois dans le miroir et je sentais que mon visage s'éloignait à chaque fois un peu plus. Nous sommes là, les uns avec les autres. Mais en fait, nous sommes très très loin les uns des autres. Le jour où je suis rentrée dans ma cuisine, j'ai réalisé que j'étais plus dans ma cuisine depuis longtemps. En vérité, j'étais plus sur Terre. J'étais dans l'espace. Peut-être sur une autre planète. Peut-être pas. Je m'étais sauvée d'ici sans m'en rendre compte. Nous pourrions, par exemple, nous sauver tous ensemble d'ici. Encore mieux, nous sauver d'ici en restant immobile. C'est pas sûr que nous trouvions chacun refuge. Je sais tout au fond de moi que celui qui dort dans la cage d'escalier, dans la cabine téléphonique, dans l'entrée de la banque, a pour sûr trouvé son refuge, alors que je continue à marcher sans trouver de refuge. Peut-être faut-il se mettre sous terre et voir si une racine prend, si quelque chose est encore bon. Faudra bien que l'un d'entre nous fasse cette expérience au moins une fois. Si nous pouvions développer certains pouvoirs magiques, on n'en serait pas là où nous en sommes.
Il paraît que quand ils ont fait retirer Saint-Laurent, il n'a absolument rien senti, ni d'un côté ni d'un autre.
Mais après tant de miracles, tout est complètement retombé à plat. Et nous voilà, comme au début de tout, asservis à nos douleurs corporelles.
C'est comme cette femme qui a sauté à l'élastique et qui s'est connement fendu le crâne par terre.
J'ai essayé de me consacrer pendant des jours entiers à rassembler mon énergie. J'ai suivi un entraînement très particulier pour développer la positive énergie, pour que quelque chose d'inouï arrive, et c'est tout le contraire qui a eu lieu. C'est là j'ai compris que l'époque des miracles était révolue et que nous étions maintenant dans l'époque de la patience. Celui qui ira le plus loin dans le domaine de la patience franchira toutes les limites possibles et imaginables. Personnellement, à partir de maintenant, j'ai tout mon temps. À vous de voir. J'ai patienté des jours et des nuits, je patienterai encore. Le pire, c'est que personne ne sait à quoi sert cette immense patience que nous développons sans cesse de toute notre force. Tout pousse à analyser, psychoanalyser, mais la vérité est que beaucoup de choses sont inexplicables. Je suis une folle dangereuse. J'aurais dû être internée et enfermée depuis longtemps, c'est évident. Je ne comprends pas pourquoi je suis encore en liberté.
Voilà exactement ce que j'ai répondu quand on m'a demandé d'expliquer ma démarche artistique.
Au départ, je me suis dissimulée sous un lit, puis sous les meubles que je me faisais tomber dessus, la commode, un miroir, l'armoire. C'est très complexe de faire tomber toutes ces choses sur soi sans se faire mal. Maintenant, je me dissimule à visage découvert. La seule chose que je ne suis pas encore arrivée à dissimuler, ce sont les émotions qui montent en moi et que j'arrive pas à contenir. Quand j'étais sous le tas de pierres, je réfléchissais au progrès de la science et je me suis dit, comment ça se fait qu'on a encore mal quelque part? À la caisse du supermarché, ma carte bleue avait été refusée. Je me suis soudain sentie comme la vieille dame avec mon caddie plein. Alors, je suis descendue dans le métro avec ma pioche. J'étais toute excitée. Je me demandais comment était la roche à cette profondeur-là. Le métro est l'antre de toutes les dissimulations. C'est un bon point de départ pour se rapprocher du centre de la Terre. En me dirigeant vers cette dissimulation décisive, j'ai réalisé que j'avais vécu sans relâcher une seule fois la pression. Lorsque la fumée s'échappe dans le ciel, je sais que quelque chose de notre lourdeur est là. Chaque soir, le jour tombe de plus en plus dehors. Tombe. Il était dans le train avec ses deux filles. Il a posé le bébé sur la table et s'est retourné. Le bébé a roulé sur la table et il est tombé sur le sol. Tous les jours, des bébés roulent sur les tables des trains et tombent. Tenir un bébé est une chose impossible. Personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Des nuées bleutées étalées par l'eau qui repousse leur terrain, comme des nuages devenus violets, bleus ou une autre couleur dont je ne connais pas le nom, et à travers la clarté toujours possible, l'apparition d'une sorte d'oranger effacée par une sorte de rose, effacée par une sorte de gris, et puis un trait bleu très net, comme s'il avait été fait par un enfant. Et enfin, au milieu de tout ça, l'apaisement. Un point de lumière qui transperce comme un œil. Autour de lui, l'horizon tout entier réchauffé par de l'eau tombée sur la peinture. Comme si ses larmes avaient coulé longtemps au-dessus de la feuille. La nature reprend tout entière possession d'elle-même. On voit, au-delà des champs, par-delà la fin de ce qui est visible. On arrive, pour la toute première fois tant bien que mal, à un bout de la terre. Le lit de neige ouvre ses mains de patience. Il recouvre les fantômes d'hommes, bois brûlé, taches de sang. Je ferme les yeux et j'entends le bruit de ses chaussures sur la neige, sa respiration et ses yeux. Cela s'est passé un jour.
Mémodio, une mémoire sonore.